Vous êtes sur RTL. RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le député premier questeur de l'Assemblée nationale, Florent Bachelier.
Bonjour Florian Bachelier, premier questeur, je le rappelle, c'est vous qui gérez les aspects administratifs et vous qui tenez les cordons de la bourre de l'Assemblée nationale. Vous êtes également un proche d'Emmanuel Macron. L'ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné hier à 3 ans de prison, dont un ferme, pour corruption. Alors la droite, LR, parle d'acharnement de la part du parquet national financier. La gauche estime que la justice fait son travail. Et vous, vous en pensez quoi ?
Moi, je pense que les politiques devraient s'abstenir de faire des commentaires sur les procédures judiciaires en cours. Il y a un seul principe qui prévaut en la matière, c'est l'absence de commentaires. Il y a un principe aussi fondamental qui est celui de la présomption d'innocence. Je suis avocat. C'est à ce titre que je le rappelle, la présomption d'innocence, ça permet de dire, comme le président Sarkozy a fait appel, qu'il est innocent jusqu'à ce qu'il y ait une condamnation définitive qui dise le contraire. Le président Sarkozy, c'est un justiciable comme les autres. Il n'est pas au-dessus des lois, il n'est pas en dessous des lois non plus. Donc je ne commenterai pas cette décision de justice qui a été marquée d'un appel dès hier. Mm-hmm. En revanche, en tant qu'avocat, j'exprime quelques doutes, quelques inquiétudes sur deux points, et des interrogations sur deux points avec une pensée pour mon confrère Herzog qui a été hier condamné à une interdiction d'exercer son métier
pendant
5 ans. Un premier point, c'est un principe fondamental là aussi qui doit être rappelé, qui est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme. Une conversation entre un avocat et un client ne peut pas être utilisée contre un client. C'est un principe essentiel qui base toute l'œuvre de justice. Il y a une enquête administrative qui est en cours, qui vise 3 magistrats du parquet national financier, qui fait suite à un classement sans suite de l'inspection générale de la justice, qui est donc une enquête administrative qui fait l'objet d'un rapport qui a été remis au Premier ministre il y a une quinzaine de jours. Je serai très attentif sur le sort qui sera réservé, et notamment sur l'idée que le Conseil supérieur de la magistrature sera saisi ou pas. Parce que
Donc vous êtes en train de dire qu'il y a quelque chose qui cloche avec ces écoutes illégales ?
Les écoutes sont parfaitement illégales. De ce que je comprends des éléments du dossier qui ont été rapportés par l'entièreté, je vais dire, de vos confrères qui ont suivi cette procédure judiciaire, et même ceux qui n'ont pas une grande sympathie ou une grande empathie pour le président Sarkozy. Moi, je suis pas... J'ai jamais été LR, j'ai jamais voté pour le président Sarkozy, mais j'ai eu, comme vous, les informations, et notamment des interceptions... Enfin, j'ai constaté qu'il y avait des interceptions de téléphoniques, ce qu'on appelle les interceptions téléphoniques, les écoutes téléphoniques, qui semble baser une décision. Après, je n'ai pas lu la totalité des 150 pages du verdict d'hier, mais je pense qu'il y a une interrogation plus globale qui doit être menée et qui donnera lieu, je pense, à des évolutions à l'avenir. Mais je crois que vous recevez tout à l'heure le patron du parquet national financier. Et ça peut être une question pertinente. Et puis, il y a un deuxième sujet d'inquiétude pour l'avocat que je suis, c'est ce phénomène de judiciarisation de la vie politique, qui, moi, m'inquiète. J'ai en souvenir, il y a quelques mois, les perquisitions réalisées de bon matin chez le Premier ministre Édouard Philippe, chez Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, chez Olivier Véran, ministre de la Santé en exercice, à leur domicile, en pleine crise sanitaire. Je crois qu'il y a un principe fondamental là aussi qu'il nous faut bien préserver, c'est la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, entre le législatif et entre le judiciaire. Donc, il y a pour moi 2 chantiers peut-être à accélérer demain en la matière, notamment un qui a été relancé par le président de la République il y a quelques jours.
Sur la responsabilité des magistrats.
Exactement, une réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Responsabilité des magistrats et de pair, l'indépendance des parquetiers. Je pense qu'une réforme plus générale, d'ailleurs, qui ne concerne pas que le PNF, le parquet national financier, qui concerne l'ensemble des procureurs du parquet. Je pense qu'il y a une indépendance qui est de fait, mais qui doit être
Florian
actée.
Bachelier.
La contrepartie, c'est qu'on a un niveau de responsabilité. Personne ne le dit, mais si vous regardez les statistiques sur les condamnations réelles du Conseil supérieur de la magistrature, vous tombez sur un chiffre qui est assez facile à retenir, 0.
Sur les condamnations. Vous parliez de séparation de pouvoir, le soutien de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui affiche son soutien à une personne condamnée, même si c'est un ami. C'est quoi, vous dites quoi ? C'est humain ou c'est maladroit ?
Si je ne veux pas, et si ma ligne directrice c'est de ne absolument pas commenter les décisions, les procédures judiciaires en cours, je me vois mal commenter les commentaires sur les procédures judiciaires en cours. Dès lors, il m'apparaît urgent de me taire.
Florian Bachelier, vous êtes un ancien socialiste, plutôt centre-gauche, un ancien strauss-kahnien, je crois. Le journal Libération a consacré sa une ce week-end à ses lecteurs de gauche qui ne voteront plus jamais pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, autrement dit, qui ne feront plus barrage. Donc ça veut dire que le Front Républicain, c'est terminé.
J'ai lu la tribune commise par Olivier Faure, oui, dans Libération ce week-end.
Le patron du Parti Socialiste.
Le secrétaire, c'est bien de le préciser, le secrétaire du Parti Socialiste. Et la réflexion que je me faisais en venant d'où je viens, vous l'avez rappelé, c'est qu'on a quand même, avec Olivier Faure, avec Anne Hidalgo, avec un certain nombre de caciques du Parti Socialiste, l'impression qu'ils vivent dans un monde imaginaire, dans un monde parallèle, qui vivent en réalité à côté du pays. La France, c'est pas un parti politique. La France, c'est une nation. J'ai aussi l'impression, à lire Olivier Faure, qu'il ne s'est jamais remis vraiment du choix des Français en 2017, qui consistait à dire qu'il fallait dépasser ce clivage, cette lecture clivante gauche-droite de la vie politique, qui, je pense, a fait plus de mal que de bien.
Mais c'est quoi ce monde parallèle dans lequel ils vivent? C'est-à-dire, il y a les gens de gauche qui continuent de voter Macron, vous pensez?
Je pense que, mais bien sûr. Et puis surtout, les gens de gauche ne sont pas en train de se demander tous les matins si les décisions qu'on prend sont de gauche ou de droite. Et le réflexe pour les politiques, c'est de dire « Mais si, regardez, je suis de gauche parce que je lutte pour l'emploi, je lutte pour l'apprentissage, j'ai fait le reste à charge zéro, le combat environnemental, on peut en être fier, on est vice-champion du monde sur le sujet, j'ai un budget de la justice qui est historique, j'ai un budget sécurité qui est historique, j'ai fait toute une série de choses. » que je veux mettre dans des cases. Moi, je pense que le Parti Socialiste est mort à partir du moment, à partir du jour où il a arrêté de produire des idées. À partir du moment où il a abandonné l'idée d'universalisme, de laïcité, d'école de la République, de sécurité, d'espérance, comme le rappelait Malek Bouti.
Malek Bouti dit « cette gauche qui est devenue méchante et aigrie », c'est ce que vous pensez donc ?
C'est une partie, évidemment, il ne faut pas généraliser. Il y a des parlementaires, je prends l'exemple, qui sont extrêmement...
Constructif.
Oui, constructif. Je pense à Valérie Rabault, qui est la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Je peux penser à Boris Vallaud. On n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais au moins, il y a des contre-propositions, il y a des idées qui sont produites. Et puis... De là où je viens, moi j'ai grandi avec cette référence qui est un parti qui changeait la vie de millions de Français, avec des figures historiques, avec le président Mitterrand, avec Michel Rocard, avec Jean-Pierre Chevènement, avec Robert Badinter, et puis plus
et
avant
vous,
Clémenceau,
vous ne vous y retrouvez plus.
Jaurès, etc. Enfin,
c'est pour ça que vous êtes allé
de
chez
responsabilité
LREM.
Qui aujourd'hui n'existe plus. Et quand je lisais la tribune Olivier Faure, en fait, il y a une forme de mélanchonisation des esprits, en tout cas de l'esprit d'Olivier Faure. Il pousse le constat, enfin, il pousse l'idée, pardon, que le Rassemblement National, au fond, c'est équivalent à la République En Marche. Et je pense qu'il joue un jeu dangereux quand il le fait. C'est, à mon sens, parfaitement irresponsable. Et je dirais un dernier point, c'est que les seuls à dénoncer l'imposture du Rassemblement National depuis 4 ans, c'est la République En Marche, c'est la majorité présidentielle. Je n'entends aucun parti d'opposition taper sur les idées du Rassemblement National. Donc il ne faut pas juste faire des manifestations avec des banderoles pour dire F comme fasciste et N comme nazi. Il faut faire, il faut dire, il faut produire.
Venons-en maintenant à la crise du coronavirus. Florent Bachelier, vous qui êtes dans les petits papiers du président de la République, hier à des jeunes qui lui demandaient d'assouplir le couvre-feu, le président a demandé de tenir encore 4 à 6 semaines. Ça veut dire quoi ? Après, c'est terminé ?
Non, ça veut dire... Non, il faut être maire de Paris pour le penser. Non, ça veut dire que, concrètement, nous avons un combat sur la vaccination à accélérer, à continuer d'accélérer, que nous sommes dans un équilibre qui, pour
l'instant... C'est vraiment un combat, la vaccination, parce que plus personne ne comprend rien. On ne sait pas si les pharmacies sont livrées, si les médecins peuvent vacciner. On apprend qu'il y a 900 000 doses d'AstraZeneca qui dorment dans un placard.
C'est un combat de chaque jour et il y aura des leçons à tirer à la fin de cette, période. Ça, c'est évidemment
clair. Ça, c'est sûr, oui, mais en attendant les leçons, on peut faire quelque chose ou pas ?
Ben, il faut continuer de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire d'accélérer. On ne le dit pas parce qu'on aime bien parfois se critiquer, nous, les Français. Mais par exemple, en termes de vaccination, nous sommes passés devant les Allemands sur la première injection. On ne l'a pas beaucoup entendu.
Mais donc 4 à 6 semaines, il veut dire quoi le président ?
Mais ça veut dire que justement, il y a cette accélération de la campagne vaccinale que pour l'instant, les chiffres que nous avons, qui sont très disparates hein, suivant les régions, je pense à la région Bretagne notamment, nous permettent de penser que la mesure intermédiaire, enfin la mesure d'équilibre qui n'est pas un confinement, mais un couvre-feu nous permet d'être sur, justement, de maintenir 4 à 6 semaines cette partie-là pour, à la fin des 6 semaines, être sur une vaccination beaucoup plus massive.
J'ai juste une question sur le front économique. Il y a des indépendants qui n'ont toujours pas touché d'aide au fonds de solidarité, d'autres pour lesquels cette aide s'est arrêtée. La Fédération des auto-entrepreneurs dit que 37% d'entre eux n'ont pas touché l'aide de décembre. C'est quoi le problème, rapidement ?
Je les entends particulièrement en Bretagne, chez moi, en Ille-et-Vilaine, à Rennes. L'État a mis en place, et je pense que chacun peut le reconnaître, un amortisseur exceptionnel, notamment la nationalisation des salaires, je me dépêche. mais force est de constater que des formulaires qui arrivent trop tardivement, une complexification, une illisibilité du système, et puis aussi, je pense, dans les leçons à tirer, peut-être une méconnaissance d'une partie de la haute administration française.
C'est Bercy qui ne fait pas bien son travail, là.
Je pense qu'on paye aussi une forme de méconnaissance du monde de l'entreprise, notamment de la petite et moyenne entreprise en France, de la part de l'élite administrative. Ça fait partie des leçons qu'il nous faudra tirer. Je pense que dans la formation, si chaque directeur de service de Bercy pouvait faire un stage d'un an dans une petite entreprise française, je pense que tout le monde y gagnerait.
Eh bien, le message est envoyé. Merci beaucoup, Florian Bachelier.
Concernant Nicolas Sarkozy, une conversation entre un client et son avocat peut donc être utilisée contre lui. Et sur la situation politique du pays et le Front républicain, le PS est mort à partir du moment où il a cessé de produire des idées. Il y a une mélenchonisation de la pensée d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, vient de nous dire Florent Bachelier.